Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Ce matin, je vous propose un voyage dans l'œuvre lynchienne avec deux spécialistes, le journaliste et essayiste Guy Astic et le romancier Paco Thielmont, tous les deux grands fans des films de David Lynch. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma et aujourd'hui on va parler de la ressortie du film culte de David Lynch, Elephant Man. 40 ans après sa sortie, on peut revoir ce film en version restaurée, en DVD. Pour nous parler du cinéma de David Lynch et très particulièrement d'Elephant Man, deux invités ce matin en duplex d'Aix-en-Provence, l'universitaire Guy Astic, auteur de deux livres consacrés au cinéma de David Lynch, et en deuxième partie, l'écrivain Paco Thielmont, lui aussi un grand admirateur de l'œuvre cinématographique de David Lynch.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Guy Astic, bonjour.
Bonjour Toufik Hakem.
Voilà, on se serre pas la main, c'est très pratique par les temps qui courent puisque vous êtes à Aix-en-Provence, donc cette interview se fait en duplex. Vous êtes l'auteur de deux livres, deux essais consacrés à l'œuvre de David Lynch et aujourd'hui on peut voir la version restaurée du film qu'il a fait connaître en quelque sorte, Elephant Man. C'était en 1980 qu'il est sorti. Que peut-on dire de ce film de Guy Astic ?
Alors déjà, c'est un bonheur qu'il ressorte en copie neuve, restaurée, et avec un travail, à mon avis, qui va être sur le noir et blanc superbe. Et c'est le deuxième long métrage de David Lynch. Et c'est vrai que c'est un film étonnant parce que après la sortie des Razorhead en 1977, plutôt film expérimental, tout ça, il y a un producteur qui croit en lui, qui va faire appel à lui, alors que personne n'y croit de son côté pour adapter l'histoire vrai de Joseph Karimérik, l'homme éléphant. Et David Lynch a d'abord hésité, et c'est un film qui est à part dans sa carrière parce que, hormis Dune, on pourra peut-être en parler, mais c'est un film de studio et c'est un film qu'il va tourner en Angleterre, loin de sa contrée américaine. Et au début, autant il était très soucieux, et très rapidement il l'a dit à plusieurs reprises, et notamment dans son autobiographie magnifique qui s'appelle L'espace du rêve, il a pu côtoyer des équipes qu'il a trouvées tout à fait compétentes, de grands acteurs, et déployer, plus qu'on ne croit, je pense, son univers à la fois filmique, imaginaire, sa façon de représenter la ville, une certaine époque.
Direz-vous, Guy Astic, que le fait qu'il ait tourné ce film en Angleterre, ça lui a permis justement d'installer ce qui va devenir le style lynchien, c'est-à-dire une imagerie onirique, avec un style novateur, surréaliste, qui pouvait passer à l'époque à Hollywood comme autoriste.
Tout à fait, il y a un prolongement très direct avec Eraserhead tourné en noir et blanc dans une cité industrielle avec fumée, électricité, vision noire, pulsion noire, et la même chose qu'il retrouve dans Elephant Man où il va pouvoir tourner dans un hôpital en partie désaffecté du côté de Londres, et quand il a visité d'ailleurs cet hôpital, il l'a dit lui-même dans ses mémoires, c'est à partir de là il s'est senti chez lui, il a senti passer un souffle comme ça dans le couloir, et le souffle pour lui c'était une sorte d'émanation originelle du gothique, et David Lynch d'une certaine façon a une inspiration gothique. Alors il le faisait depuis les États-Unis, mais là il va croiser le gothique anglo-saxon, et qui consiste à faire que l'espace, qui est un espace physique, est aussi une représentation de l'espace mental, que ce sont des lieux liés à des violences, à des excès, à des perversions, et il va avec Elephant Man, il va véritablement, je trouve, transcender cela avec le noir et blanc à l'époque, qui était en 1980, évidemment, on ne tournait pas forcément en noir et blanc, et donner vie aussi bien à la créature qu'à un lieu, à des lieux très précis.
Mais que dit le cinéma de David Lynch, Guy Astic ? Est-ce qu'on n'a pas trop vite fait de dire qu'il était là pour déranger, pour offenser, pour mystifier son public ?
David Lynch, il est là pour, s'il est là pour déranger, c'est pour déranger nos habitudes de spectateurs. Je pense qu'il est là parce que il intègre comme ça dans ses films des logiques de rêve, par exemple, des logiques de mystère, où, pour lui, ça ne suffit pas de résoudre une énigme. Il faut être pris dans une trajectoire du mystère, c'est-à-dire se laisser aller, être pris dans une forme de sensorialité qui nous dépasse. Par exemple, l'entrée en matière d'Elephant Man avec cette ouverture étonnante sur la genèse, entre guillemets, d'Elephant Man, la vision presque cosmique du visage de la mer, etc. On se demande si on est dans une image qui est celle de l'origine d'Elephant Man, si on est dans la tête d'Elephant Man, si on est dans une vision, si on est dans le film d'un film, etc. Et donc il y a cette idée chez David Lynch de toujours nous faire perdre nos repères ordinaires pour ouvrir d'autres portes de la sensation. Et il le fait là, au sein d'un film hollywoodien, comme il le fera toujours. Là où il a peut-être moins réussi à le faire, c'est pour Dune, et encore. Je trouve que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, nous met en phase ou en déphase, je ne sais pas comment on peut dire, avec des images qui viennent de plus loin, dont on veut sonder les mystères et qui nous dépassent. On sent qu'on est dépassé et en même temps, on a envie de s'y perdre, de s'y lever, d'être secoué par ces images. Et c'est vrai que là, c'est quelqu'un qui déstabilise et qui déstabilise encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est avec Twin Peaks, The Return, la saison 3, il a créé un objet dont on n'a pas fini de parler.
Voilà, ça c'est une scène très importante du film Elephant Man. Vous avez bien sûr reconnu cette scène dans le métro guiastique. Comment, à partir de cette scène, on peut résumer tout le cinéma de David Lynch ?
Ah oui, vous avez très bien choisi cette scène parce que c'est la fameuse scène du métro avec ce moment où John Merrick se retrouve acculé comme ça au fond d'un espace, il se retourne et il crie dans une sorte de vagissement avec des mots qu'on a peine à entendre et qui au fur et à mesure prennent forme, qu'il est humain. Et c'est intéressant parce que on entre dans une sorte de conduit comme ça souterrain et c'est de ce souterrain, de ce monde sous le monde que naît comme ça une parole fondamentale qui renverse tout. Et je pense que là on est au cœur du cinéma de Lynch. Lynch, c'est un cinéaste des mondes sous le monde, un cinéaste qui enlève le voile de la réalité pour découvrir quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il fait partie de ces grands auteurs, pas seulement cinéastes, qui ont fait ces grandes fictions, vous savez, de passages de monde, de trouées, comme Le Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles, les textes de Kafka, etc. Parce qu'il fait partie de ces personnes qui créent comme ça des fictions éminemment inquiètes, éminemment profondes, d'où peuvent surgir aussi bien le pire que le meilleur et articuler comme ça à la fois l'inquiétant
pour mieux le réhabiliter. Est-ce qu'il y a un message dans les films de David Lynch, message dans le sens humaniste du terme, bien sûr?
Ah, ça c'est une bonne question. Il y a un message humaniste dans le sens où il prend une liberté absolue en tant qu'artiste. Ça c'est le message de l'artiste, de la création la plus libre qui soit, de l'idée de l'échapper, de s'échapper comme ça des normes ordinaires, d'explorer les forces étranges de l'existence. Il y a un film qu'il n'a jamais réussi à mettre en scène et qui tournait toujours au moment où il tournait ses films, il avait toujours en tête, c'était Ronnie Rocket, et le sous-titre c'est Les mystères absurdes des forces étranges de l'existence. Au moment où il a fait Elephant Man, il voulait lui monter en noir et blanc Ronnie Rocket, mais il n'avait pas obtenu l'argent. Et c'est quelqu'un voilà qui tourne autour des forces étranges de l'existence, et forcément en tournant autour des forces étranges de l'existence, il va parler aussi de l'humanité, il va parler du mal avec un grand M. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pose la question du mal qui agit sur nous, du mal extérieur, du mal intérieur.
Et du mal intérieur aussi, oui. Bien sûr, oui.
Ah oui, du mal intérieur, énormément du mal intérieur, parce que ce sont souvent des personnages qui sont soit en crise, soit au bord de la folie, soit dans une sorte de dédoublement, etc. Et en même temps aussi du mal que l'âme humaine est prête à insuffler comme ça à l'humanité dans ses tréfonds. C'est pour ça que vous avez la fameuse bombe atomique dans le fameux épisode 8 de Twin Peaks The Return. Et là, cette séquence que vous avez choisie de l'homme acculé, l'homme monstre acculé au fond du métro, on voit bien ce que peut faire le pire de l'humanité.
Merci beaucoup Guy Astic. Je rappelle que vous êtes l'auteur de deux essais consacrés à l'œuvre de David Lynch, Le Purgatoire des Sens, Lost Highway, et Twin Peaks, Les Laboratoires de David Lynch. Merci beaucoup.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Et on retrouve un autre spécialiste de David Lynch ce matin, pas comme tellement. Bonjour.
Bonjour, bonjour Tufik.
40 ans après, on ressort Elephant Man en version restaurée. David Lynch, qui a été si important pour vous, parce que vous avez écrit sur le cinéma de David Lynch, vous avez théorisé le travail lynchien, ce précurseur d'ailleurs des séries télé, peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en parler, mais d'une manière générale, qu'est-ce que ça représente un film comme Elephant Man pour vous et pour la culture pop?
Alors Elephant Man, ce qui est singulier, c'est que c'est le deuxième film de David Lynch, mais c'est celui qui aura un retentissement international. Mais c'est un film dont il n'a pas fait le scénario, et c'est Mel Brooks qui le lui a proposé. C'est un signe de très grande ouverture d'esprit de la part de Mel Brooks, parce que il a fait en ayant vu Eraserhead, le premier film de Lynch, qui lui est du Lynch 100%, hein,
et
qui
en même temps on imagine mal Mel Brooks tournant Elephant Man.
Ah oui bien sûr.
il était dans le registre comique.
Non, c'est pas du tout comique. Ouais. Non, je suis même pas sûr qu'il ait jamais pensé le réaliser lui-même. Enfin, ça aurait été très curieux. Quoi, mais il y a Anne Bancroft dans le film, et c'est vraiment lié bien aussi sûr. À Anne Bancroft. C'est comme
la femme de Mel Brooks, pour ceux qui ne savent pas.
Voilà. Et qui a elle-même joué assez peu dans les films de Mel Brooks de temps en temps, mais c'était pas son registre, justement. Et donc c'est donc du coup, Elephant Man, ça permet à ce moment-là de faire deviner un peu les qualités à la fois plastiques et puis aussi mélodramatiques de David Lynch. Donc s'il y a quand même quelque chose qui est vraiment lynchien dans Elephant Man, c'est le rapport entre la monstruosité et le mélodrame, et la beauté évidemment de cet homme. Le moment où Anne Bancroft lui dit tu n'es pas l'Elephant Man, tu es Roméo, et à côté la vie terrible qui continue à vivre et tout ça. Et donc du coup c'est peut-être si je dis pas de bêtises, on va dire le film de monstre au sens de personne difforme le plus connu, avec Freaks de Todd Browning. En tout cas, c'est à ce moment-là, c'est à ça que le film faisait écho pour les gens qui le découvraient à ce moment-là. Et après, ça a entraîné Lynch à un plus grand public et puis de plus grands ennuis, puisque ensuite il a fait Dune, et Dune a été pour lui tellement insupportable et impossible
et pourtant,
à assumer.
Film.
Ah oui, mais je crois, hein, j'ai pas vérifié depuis. À un moment, en tout cas, je sais qu'il l'avait désigné, qu'il l'avait considéré qu'il faisait pas partie de sa filmographie. Bon, tout ça parce qu'il a été retouché surtout au montage, hein, parce qu'il avait fait un film, je crois, de 4 heures ou de 5 heures qui a été réduit, et il est estimé que c'était pas représentatif de ce qu'il avait voulu en faire. Mais quoi, Dune a pu l'amener à Blue Velvet, et Blue Velvet est comme la phase 2 de son exploration cinématographique. C'est-à-dire que autant entre Eraserhead et puis malgré tout Elephant Man, qui est dans le registre du noir et blanc, et ses courts-métrages précédents, il est dans un registre qui va dire plus expressionniste, on pourrait dire, ou en tout cas un travail sur l'ombre et la lumière, très fort, très contrasté, avec toujours cette touche mélodramatique qui lui est propre. Autant à partir de Blue Velvet, il va mettre en place son Amérique bis, ce qu'on a appelé les années 50 éternelles de David Lynch, puisqu'ils sont des sortes des années 50,
Twin Peaks avant l'heure.
Oui, bien sûr. Et puis c'est le moment où Kyle MacLachlan incarne pour la première fois cette espèce de détective, hein, ce personnage de l'homme comme détective, et qui est une figure centrale, en tout cas du travail qu'on connaîtra de David Lynch. Donc bien sûr, Blue Velvet, c'est la grande phase 2 qui va amener jusqu'au premier Twin Peaks.
Pourquoi cette affinité avec ce cinéma-là, pas comme tellement? Qu'est-ce qui vous a touché dans le cinéma de David Lynch? Vous êtes essayiste, vous avez écrit, théorisé sur le cinéma de David Lynch.
Oui, je pourrais dire même c'est parmi les premières choses qui m'ont donné envie d'écrire, c'était sur Lynch. Je pense qu'il y a deux choses. L'innocence, c'est-à-dire que le cinéma de Lynch, pour moi, il y a un cinéma vraiment, il y a vraiment quelque chose de l'innocence. Quels que soient les univers les plus sombres et ténébreux qu'il va montrer, moi, je suis à l'aise avec lui, je suis à l'aise avec eux, parce que je sais que c'est fait en toute conscience de ce que ça peut représenter, et donc dans le désir malgré tout d'aller chercher les éclats de lumière qui peuvent s'y trouver. C'est-à-dire que il va jamais dans les ténèbres pour le plaisir des ténèbres ou par complaisance avec les ténèbres. Je pense que ça, c'est un premier point, et pourtant les ténèbres très souvent l'emportent. Et le deuxième point, c'est que son cinéma, il m'a transformé en espèce d'enquêteur. C'est-à-dire qu'il lègue tant de mystères. C'est un cinéma qui est tellement rempli de mystères, tellement rempli d'énigmes non résolues, de choses qui sont des choses qui vont vous obséder, vous hanter, que c'était après le premier Twin Peaks, après le Twin Peaks des années 90, j'ai obsessionnellement revu les scènes de ces films, à la recherche d'indices, un peu comme ces personnages. En fait, ils transforment le spectateur en... Chez lui, c'est détective ou agent du FBI, mais c'est un spectateur qui va obsessionnellement essayer de comprendre ce que Lynch lui a légué, c'est-à-dire qu'en fait, ces films finalement viennent aux spectateurs comme des prophéties. Ce sont des films qui ont une dimension prophétique, dans le sens où ils sont porteurs d'un mystère qui échappe à son auteur même. C'est des films inspirés. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a obsédé chez Lynch, c'est qu'il a toujours dit que ces films sont le résultat de l'inspiration la plus pure. Il ne veut pas les expliquer parce qu'ils ne lui viennent pas en tant qu'explication. Ils lui viennent en tant que mystère. Lui-même trouve une explication a posteriori pour ce qu'il donne, mais il considère que son explication n'est pas l'explication, et que chaque spectateur doit faire son explication.
Et pourtant, une mise en scène, ça doit reposer sur une envie de raconter une histoire, de délivrer des sensations.
Oui. Oui,
que peut-on dire, pas comme tellement, de David Lynch, réalisateur?
C'est un des plus grands, même à un niveau formel. C'est-à-dire que son sens de la beauté est si aigu, si profond. Et pourtant, il joue sur des choses qui sont des choses extrêmement limites. Et c'est peut-être ça aussi que j'adore chez lui. Pendant très longtemps, les gens trouvaient que son cinéma avait une dimension kitsch. C'est plus le cas aujourd'hui, hein. C'est plus un reproche qu'on lui fait. Je sais qu'à l'époque de Wild at Heart, en français c'est Laure et Lula, on lui reprochait un certain kitsch. Il y avait même des cinéphiles ou des critiques de cinéma, ou même des professeurs en cinéma, parce que j'en avais eu un, qui disaient que ça se rapprochait du clip ou de la publicité. Moi, je trouvais ça très injuste, mais je crois que je voyais ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que Lynch, d'ailleurs un peu comme Philip K. Dick, va chercher ses prophéties dans des diners. Il va chercher ça à travers ce qui pour nous apparaît comme des endroits assez vulgaires. Lui, il va y trouver du mystère, il va y trouver même du sacré, il va y trouver du démoniaque, et donc c'est ça qu'il va chercher, et c'est ça qu'il va donné. Alors, sa mise en scène a tellement évolué depuis le début de son cinéma, même si on repère les constantes, on voit qu'elle a énormément évolué. Et un premier point, c'est déjà que, grosso modo, de Eraserhead à Twin Peaks, Fire With Me, c'est une mise en scène qui tient beaucoup sur le plan tableau. Moi, c'est quelque chose que j'adore, donc je suis très sensible à ça.
Qu'est-ce que le plan
tableau ? C'est comme chez Kubrick, ça tient beaucoup à des effets de symétrie. Le plan master, on va dire, est vraiment le plan le plus important de la scène. scène. Et c'est un plan qui va présenter l'ensemble de la scène, un peu comme on pourrait représenter un tableau. On en a beaucoup, beaucoup chez Lynch, hein, depuis Eraserhead, où c'est les plans d'entrée de Henry Spencer dans le hall de son immeuble, jusqu'à Twin Peaks for a Look with Me, où c'est les plans du lieu qu'on appelle Above a Convenience Store. Dans la troisième saison, il l'appelle The Dutchman's.
Sauf qu'on n'a pas attendu David Lynch pour ça. Je veux dire que Edward Hopper a marqué des grands metteurs en scène, de Hitchcock jusqu'à Wim Wenders, et même au-delà d'ailleurs.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui était présent, mais qui va exploser complètement à partir de Lost Highway. Et dans le cinéma d'après, c'est plus du tout aussi présent. Il le fait revenir que comme souvenir, je dirais, dans la saison 3 de Twin Peaks. Ouais, comme réminiscence de cette époque. Mais quoi, il passe par énormément de transformations. Et la saison 3 de Twin Peaks, c'est à ce niveau-là un cas d'école. C'est-à-dire que pour des gens qui ne connaîtraient pas Lynch, on leur montre deux scènes et ils pensent que c'est pas le même cinéaste qui a pu les faire d'une série. Hein. Donc c'est quand même très étonnant.
Grand cinéaste, dites-vous, pas comme tellement. Est-ce qu'on peut dire dernier cinéaste du cinéma, puisqu'il est un des premiers à avoir investi la série télé?
C'est vrai.
C'est aussi une facilité de journaliste que de présenter les choses comme ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un fond de vérité dans tout ça?
Alors, depuis, moi j'en vois au moins un qui fait partie des très grands, même s'il a mon âge, c'est Bertrand Mandico. Donc Lynch peut pas être le dernier, parce que j'espère que Bertrand va lui survivre. Il est quand même beaucoup plus jeune. Et puis il y a Lars von Trier aussi, qui est plus jeune que Lynch et qui va aussi très loin dans le cinéma. Alors la série télévisée, dont je suis fan inconditionnel de beaucoup de séries.
Il était un des précurseurs.
Absolument. Et Twin Peaks a donné le là, en tout cas pour toute la série, ce qu'on appelle la série moderne. En fait, il y a une séparation, c'est-à-dire qu'il y a des puissances narratives qui ne peuvent plus être exprimées autant au cinéma, mais par contre pour ce qui est de l'ordre de l'expérience optique. La série télévisée ne peut pas remplacer l'expérience cinématographique. Elle ne peut pas remplacer l'expérience d'être tout entier plongé dans un monde.
Merci beaucoup, Pacom Thielman.
Merci, Toufik.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr. Et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller le matin avec le Réveil culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Émilie Vallat et Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Anthony Thomasson. On se retrouve demain à la même heure. Bonne matinée, bonne journée sur France Culture.